Gloire à Dieu. Fait que Seigneur, on vient devant toi ce matin, éternel Dieu. Seigneur, je te demande de rassurer nos cœurs aussi, de les réconforter nos cœurs, Seigneur Dieu. Même dans l'épreuve, éternel Dieu. Parce que Seigneur, on sait que tu es au-dessus de toutes circonstances, de toutes choses, Seigneur Dieu, qui est au-dessus de nous, que nous pouvons vivre dans nos vies, Seigneur Dieu, même dans nos corps, éternel Dieu. Tu es le Dieu de l'impossibilité, Père. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche et que ton Saint-Esprit vienne nous parler dans nos cœurs. Amen. Le titre de mon message, c'est « Être bien armé ». Fait qu'on va tourner dans Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Puis le mot ruse ici, là, ça veut aussi dire une tromperie. C'est ce qu'il fait à l'ennemi. Il vient, il est rusé, puis il vient avec des tromperies, des tricheries, des fraudes, des artifices. C'est ça qu'il fait. C'est jamais la vérité. C'est jamais le vrai tableau qu'on devrait avoir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un combat qui se fait là. Il faut tenir ferme. S'il faut tenir ferme, c'est parce qu'on a d'opposition. Si on n'aurait pas d'opposition, pourquoi tenir ferme? On n'a pas besoin. Il n'y a pas d'opposition. Mais quand une opposition vient, c'est là qu'il faut tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Mais pourquoi que l'apôtre ici nous exhorte à porter une armure? Pourquoi une armure? Pourquoi faudrait tellement porter cette armure? Parce que dans Genèse 2:1, nous dit, après que Dieu a créé un jour, deux jours, trois jours, septième jour s'est reposé, on arrive au chapitre 2, verset 1, qui nous dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » On faisait déjà partie. Dans le plan de Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il savait qu'il y avait déjà, il y a un combat qui était pour avoir lieu, puis il savait qu'on faisait partie d'une armée. Mais quand tu es en rôle, pasteur Tom, pour nous en parler longtemps, ben tu dois être entraîné. Premièrement, avant d'être entraîné, c'est une mise en forme. C'est une mise en forme, après ça, tu es entraîné avec les armes offensives, les armes défensives, parce qu'ici, il y a des armes offensives, le bouclier, on se protège, l'épée, c'est offensif. Dieu nous donne toutes les armes. Dans l'armée, c'est pareil. Avant d'être capable d'utiliser l'équipement de l'armée, ben tu dois être en forme. Hein? Je pense que oui, hein? On doit être un peu en forme. Mais il y a une arme encore plus puissante que Dieu nous a donnée. On va tourner dans 1 Pierre. Chapitre 4. Regarde-moi ça, un bon petit verset pour moi. Chapitre 4 et le verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre. » Là, l'apôtre nous dit, comme Christ a souffert dans la chair, il faut s'armer de cette pensée-là. Là, c'est une autre âme différente qui est écrite dans Éphésiens 6. Puis si on veut plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit, si on est armé de cette pensée-là, ça va être efficace. Armé veut dire être armé, fournir en armes un pouvoir, se fournir de quelque chose, une métaphore, ça veut dire aussi dire, une métaphore, c'est prendre le même esprit que Christ. Mais ici, Paul, quand il dit « souffrir comme Christ », vous savez, c'est pas de souffrir en tant que chrétien. Moi, je me rappelle, là, il y a longtemps, là, j'étais bébé chrétien, c'était Marcel qui était à l'époque. C'est... Puis il y avait un frère qui venait ici à l'église. Lui, là, il vivait dans la pauvreté, mais par choix. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la pauvreté par choix. Pensait qu'il était être plus près de Dieu. C'est un type de souffrance. C'est pas cette souffrance-là que Dieu nous appelle à vivre. Je n'ai jamais compris ce sens-là de cet homme-là, mais parle délibérément. Il vivait dans, presque dans la disette. Puis il y en a des gens que, parce qu'ils vivent dans la disette, tout ça, ils pensent d'être plus près de Dieu, parce, ou des gens qui vont supporter des... Non, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans moi. Ça fait longtemps qu'on a abandonné le navire. Eh bon, salut, bon, c'est ça la chrétienté. C'est pas ça souffrir que l'apôtre parle ici. Si on lit dans, on va aller dans Psaume 84, verset 11. Puis il y en a bien qui font ça, le vœu de pauvreté. Qu'est-ce que ça? Qui veut vivre pauvre? Dieu ne nous appelle pas à être pauvre. On a un Dieu qui est riche. Pas qu'en matériel, mais qui est riche en miséricorde aussi, notre Dieu. Psaume 84 et le verset 11. OK, bien écoute, ça dépend des versions. Il y a des versions, c'est le 12, puis il y a des versions, c'est 11. OK, moi, c'est celle qui commence par « Car l'Éternel est un soleil ». Moi, la mienne, c'est verset 12. Pour certains, peut-être, c'est le verset 11. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu veut qu'on prospère. Dieu veut tous qu'on prospère, à tous égards. Même Paul le dit, j'espère que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme, comment qu'elle prospère? Peut-être que c'est de même que tu vas prospérer toi aussi. En Égypte, quand il, malgré l'affliction là, des Égyptiens, malgré la souffrance, le joug que Pharaon mettait, Dieu les avait déjà mis dans une partie du pays qui s'appelait Goshen. Puis quand c'est venu le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été protégés des displays. Ils ont été protégés. Puis le mot Goshen, qu'est-ce qui est intéressant? Ça veut dire le lieu du soleil. Qu'est-ce qu'on vient de lire dans le psaume? Le Seigneur Dieu est un soleil brillant. Une terre de force, une terre herbeuse. Malgré qu'ils ont traversé ça, Dieu les a mis dans une place du pays qui les a protégés. Puis qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont sorti? Mais ils ont dit aux Égyptiens, donnez-nous vos richesses. Puis ils ont parti avec les richesses de l'Égypte. C'est sûr que malgré la souffrance, tu peux peut-être vivre un temps de souffrance, mais Dieu, ce qui nous habite pas à ce type de souffrance-là que l'apôtre parle, c'est dans 1 Pierre. Le psaume 105, 37 dit, pas besoin de tourner, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Agé 2, 8 « L'argent est à moi. » Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est à Dieu que ça appartient, ça. Puis Dieu, s'il veut nous la donner, il va nous la donner. Mais Dieu, s'il te la donne et il sait que tu vas te perdre, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Tu ne peux pas dire, Dieu me bénit, lui, Dieu me... Premièrement, il faut regarder, où est ton cœur? Où est ton cœur? As-tu un cœur miséricordieux? As-tu un cœur qui aime donner? Si tu étais un cœur qui est avare, puis tout ça, même si tu avais de l'argent, si tu n'es pas à donner 5 cents, même si tu avais un million, tu ne t'en donneras pas plus. C'est impossible. Mais si Dieu voit le cœur, mais regardez celle qui est sortie de l'Égypte, là. Il n'avait pas encore tout le cœur changé, c'est à mon nom, là. Mais Dieu les a laissés sortir pareil des richesses. Mais ici, il faut faire attention. Dieu ne nous éloigne pas toujours de l'épreuve ou de la correction. Ça, c'est nécessaire pour notre croissance spirituelle et pour maturer dans le Seigneur. Si on désobéit et on se détourne des voies de Dieu, hein, c'est tout à fait normal de souffrir. Parce quoi? Parce que Dieu corrige celui qu'il aime. Fait que ce type de souffrance-là, ce n'est pas la souffrance qu'on parle dans Pierre. Mais souffrir, ça peut arriver. Si tu désobéis, Dieu va arriver, puis il va te corriger à sa manière. Puis des fois, ça peut être tough. Je ne dis pas qu'est-ce qui arrive à Claude, c'est ça. Je ne dis pas ça, je dis. Mais ça pourrait être ça. Ça se pourrait-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas ça. Mais ça pourrait-tu? J'en sais rien. Mais pour quelqu'un d'autre, peut-être que Dieu va t'emmener à un point que tu vas être tellement là, jusqu'à temps, tu vas dire, j'abandonne. Là. I give up. Everything. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien. Il n'y a plus rien qui te reste. Tu n'as plus de santé. Écoutez, là, prenez-moi, je ne prends pas ça pour Pasteur Claude. Ça peut arriver à n'importe qui, mais je parle à un point que tu n'as plus rien. Là. Même si tu avais la richesse, tu n'as plus la santé de ta servir, tu n'as plus rien. Job. Regardez Job, quand on a parlé de Job. Il était riche à craquer. À craquer, il était honoré, adulé par tout le peuple qui était autour de lui. Jusqu'à temps qu'il perd tout. Quand il a tout perdu, ils crachaient tout, il n'y a rien qui faisait pas. C'est Dieu qui l'a relevé. Mais il a fallu qu'il passe par là pour dire, mes yeux maintenant t'ont vu. J'ai entendu parler de toi, mais là, mes yeux t'ont vu. Fait qu'on ne sait pas les voix de Dieu, comment est-ce qu'ils sont pour chacun de nous. Mais c'est sûr que si on désobéit, Dieu vient et corrige. Job, tournez pas, Job 5, 17, heureux l'homme que Dieu châtie. C'est Job qui dit ça. Ne méprise pas la correction du Seigneur, du Tout-Puissant. Proverbe 3, 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Proverbe 6, 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Et quand Dieu vient et nous corrige, il ne faut pas le regarder comme un... Quand on le reconnaît, on sait qu'en bout de ligne, après cette correction au lieu, on va avoir quoi? Premièrement, maturer. Le cœur va être changé. On ne sera plus le même. Des choses qui nous tiraillaient dans l'âme, qui nous contrôlaient, la jalousie, l'envie. Nommez-les. Quand ça va venir le temps, Dieu, ça ne sera plus là. Tu n'auras plus de jalousie. Tu n'auras plus d'envie. Tu n'auras plus d'envie de querelle. Ça va partir. Proverbe 15, 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Imaginez-vous, là. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande, lui, mourra. Proverbe 15, 32. Celui qui rejette la correction, imaginez-le, celui qui rejette la correction méprise son âme. Ça veut dire que ton âme n'a aucune valeur pour toi. C'est à peu près ça qu'il dit, là. Ton âme pour toi, là, parce que tu méprises la correction. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Mais la souffrance que j'ai lue dans 1 Pierre, que mentionne Pierre, c'est une souffrance qui est choisie délibérément, de façon volontaire, que tu choisis de souffrir par ceux qui ont le désir ardent et zélé d'être entièrement à son service. C'est ce type de souffrance-là qui parle ici. Comme Christ, Christ, lui, il est parti du trône, il est venu, puis il a fait la volonté du Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Voyez-vous? Puis il a tout, il a souffert, pas parce que, parce qu'il a fait la volonté du Père. Pour les intérêts de son Père, il est venu sur cette terre, puis il a souffert de façon volontaire. Choisir, OK, c'est de choisir volontairement un chemin pour les intérêts de Christ et du royaume, quel qu'en soit le prix. Si on souffre comme ça, c'est là qu'on est puissant, extrêmement puissant. Mais moi, je sais, en 32 ans, je n'ai pas souffert comme ça encore. Je le sais, je n'ai pas souffert comme ça. Je le sais, je n'ai pas pris la décision de vraiment de dire, je suis prêt à te servir, Seigneur, puis je vais souffrir. C'est comme, quoi qu'il arrive, pas que je veux, mais quoi qu'il arrive, pour ton royaume, pour la volonté du Père, pour les âmes perdues, je vais souffrir. Quand je vais vous en dire une bonne. C'était un message, là. J'ai écrit ça. J'étais bébé chrétien. Bébé. Là. J'en revenais pas que j'avais écrit ça. C'est pas bon, là. Puis je m'occupais d'une cellule chez les pilons. Claude venait juste d'être pasteur, fait que ça fait peut-être 25, 26, 27 ans, je ne le sais pas. Puis j'avais écrit c'était un message-là. Mais puisque je dis, ah, ça sera bon. Mais ça sera bon, mais je pense que c'était comme Dieu me parlait beaucoup plus. Il me parlait à moi, là. Comme, Alain, tu vas-tu être prêt à tout faire et même jusqu'à souffrir pour mon royaume? Dans le fond, il pose cette question-là à chacun de nous. À chacun de nous. Avons-nous vraiment souffert pour le royaume ici en Amérique du Nord, là, comme d'autres pays là, que les frères sont torturés? Encore aujourd'hui, là, ils se cachent. Nous, on a une liberté. Là. Mais peut-être que Dieu un jour va dire cette liberté-là, vous ne l'aurez plus. Vous allez faire comme les autres. Vous allez dépendre de moi. Vous allez savoir c'est quoi souffrir. On ne sait pas. Regardez les lois qui se promènent partout, tout ce qui arrive. Là. Tout va vite, même très vite. Autrement dit, c'est se dire chacun de nous, change-moi et brise-moi. Je veux faire ta volonté. Si on se prépare à souffrir, bien, de cette façon-là, l'épreuve ne nous prendra jamais au dépourvu. On ne sera jamais dit, qu'est-ce qui vient d'arriver? Non, ça n'arrivera pas. Mais armé, on va continuer, même si ce n'est pas facile. Les apôtres, là, les premières églises, là, c'était pas facile. Ce n'est pas important de savoir combien nous avons souffert, mais dans quelle mesure, dans quel état d'esprit nous sommes quand nous souffrons pour Christ. Autrement dit, c'est pas de savoir comment tu as souffert, c'est dans quel état d'esprit que ton âme est quand c'est la souffrance pour le royaume, elle est là. Jacques, versets 1 et 2, me dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie les complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » et qu'on devrait être dans la joie, même dans l'épreuve. Colossiens 1, 24, Paul dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Aïe, aïe, aïe. C'est Dieu de l'Antique, comme dit. Il se réjouissait dans les souffrances pour l'Église. Il parlait pour l'Église de Colosse. « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Voilà. Mais dans quelle mesure sommes-nous prêts à souffrir pour Christ? Jusqu'où on est prêt à aller? Apocalypse 2:10 me dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Être prêt à abandonner notre vie même jusqu'à la mort. On est en Amérique du Nord, on ne voit pas ça. Parce qu'on, comme j'ai dit, on a une liberté ici. Mais il y a des gens dans d'autres pays que c'est pas mal ça. C'est jusqu'à la mort qu'ils ont souffert pour le royaume. Ils ont donné leur vie. 1 Pierre 2:11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre. À l'âme. Parce qu'un jour, là, on va la quitter, cette temple. On va la quitter, cette terre. Parce qu'on est des passagers. On est des pèlerins. Mais faut que ces convoitises-là, ces choses-là, parlent de nous. Afin qu'on soit plus comme Christ. La mort, c'est le marchepied qui va nous emmener au Père. Si l'enlèvement n'est pas là, mais c'est sûr qu'on va mourir un jour. Mais la parole me dit que Dieu va venir rechercher son Église. Mais je le crois. Mais je ne peux pas dire quand. Je ne sais pas. Pour l'instant, on doit marcher tout le temps. De jour en jour. Pas à pas. Un jour à pas, un pas dans la foi. Mais le jour que je vais partir, je ne sais pas. C'est pareil pour Pasteur Claude. Même si on voit là, je ne sais pas, moi, c'est quand son temps. Aucune idée. Puis le mien non plus. Puis comment je vais partir? J'en sais encore. j'ai pas d'indice. J'en ai pas. Si on devrait être capable de dire nous-mêmes, jusqu'à la mort, ma vie est entre tes mains, comment qu'on serait puissant comme Église? Comment qu'on serait puissant? Parce qu'il y a tout le temps des restrictions pareilles de dire, si je vois là, je fais ça, qu'est-ce qui peut arriver? Mais écoute, si on est en Amérique du Nord, c'est rien encore. Puis c'est pour ça c'est moi qui crois ça, que la Bible dit, mais des temps difficiles s'en viennent. Très difficiles. Extrêmement difficiles. Avez-vous à Maui, à Hawaï, dans l'espace, un ouragan, Pierre a dit ça, l'ouragan a poussé le feu qui a brûlé 80% de la ville. Une ville. Ah oui, là, il y a des centaines de morts. Tu avais combien? Il y a 80 quelques morts, mais il y a des centaines de gens disparus. Il y en a, parce que c'était une île, c'était la grosse île. Hawaï, il y a plusieurs îles. C'est une des îles, mais pas la plus grosse. Il y a des gens qui ont sauté dans l'eau, là. Écoute, un ouragan, ça souffle à des centaines de kilomètres heure, le vent, là. Puis le feu, il a sauté d'une maison à l'autre. D'une bâtisse à l'autre. C'est rasé. C'est pareil. Écoute, Hiroshima, là, on a vu des photos, ça fait penser à ça. Comme une bombe nucléaire qui aurait sauté, que ça aurait... Plus rien. Mais qui ces gens auraient dit ça, là, comme... Tu te lèves le matin, prends un petit café, allô, chérie, prends ta Bible, écoute une nouvelle, whatever que tu fais. Pow, fini. On ne sait pas qu'est-ce qui nous peut venir. À chaque instant, on ne sait pas. On est ici, on se parle. Pow! Oui, ça serait le fun. Mais on ne peut pas savoir. Mais imaginez-vous ces gens-là, là. Puis, c'était pas tous des méchants. Peut-être qu'il y avait plusieurs chrétiens là-dedans, dans ces gens-là. Je ne sais pas. Paul n'attachait aucune importance à sa vie. Zéro. Lui, sa vie, là, ça n'avait aucune importance. Lui, sa vie, c'était Christ puis le royaume. C'est tout ce qui lui importait. 1 Corinthiens 4, 11 et verset 13. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraitants, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Injuriés, mais nous bénissons. On se défend pas, là. C'est pas mot pour mot. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Imaginez-vous, là. Il y a passé Paul, là, pour les églises, là. Mais tout le temps pour la cause du royaume de Dieu. C'est ça que l'apôtre dit. C'est pour ça qu'il est capable d'écrire dans 1 Pierre. Armez-vous de cette pensée-là. C'est puissant. 2 Corinthiens 11, 23, 27. Là, Paul, il parle aux Corinthiens parce que les Corinthiens étaient prêts à avoir toutes sortes de nouveaux ministres qui pouvaient venir dans l'Église puis les enseigner. Paul, il dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en manière extravagante. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la soif et à la faim, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Aurions-nous souffert comme ça pour la cause du royaume? Aurions-nous été jusqu'à là? C'est une question à se poser en tabarouette. 2 Corinthiens 12, 9, 10. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Puis le Paul dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pour ça que l'apôtre est capable de dire, « Hey, là, j'ai une arme pour vous autres, qui est puissante, celle-là. Armez-vous de la pensée comme Christ a souffert. » C'est pas de souffrir parce que tu manques de nourriture ou quoi que ce soit. C'est pour les intérêts de papa. Tout le temps pour les intérêts de papa en haut. 2 Corinthiens 1, 21-23. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de meilleur. Mais après ça, il va rester parce que c'est pour les apôtres. Tu sais, qu'est-ce qui est de meilleur? Lui, Paul, là, dans tout ce qu'il a vécu, n'oubliez pas Paul, là, la révélation qu'il a eue. Là, quand il était arrivé à Damas, puis il était 3 ans avant de commencer à prêcher, parce qu'il est allé en Arabie, puis Jésus, enseigné par le Seigneur lui-même, peut-être par l'Esprit, mais il est enseigné. Divinement. C'est pour ça qu'il dit, j'ai un mystère à vous dire. Mais là, il savait que partir avec Christ, malgré tout, qu'est-ce qu'il avait eu de reçu du Seigneur, c'était de beaucoup plus que rester sur la terre. Mais il dit, à cause que le papa a encore besoin de moi, ben, je vais être encore prêt à souffrir, pas rester sur cette terre, pas faire ta volonté, papa, jusqu'au jour que je vais partir. Amen. N'oubliez pas que Paul, la plupart de ses épîtres, il les a écrits en prison. La plupart de ses épîtres étaient en prison. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant. Je l'ai lu celui-là, oui. Oui. OK. Acte 12, 6. Ça, c'est Pierre. On parlait de Paul, Pierre. Puis c'est quand que Pierre, au début de l'Église, il était arrêté. Puis il était en prison. la nuit qui précéda le jour où Hérode allait la faire comparaître. Imaginez-vous, là, tu sais que tu as une opposition incroyable après que Jésus est mort, puis les apôtres, puis ils se font mettre en prison. Mais il sait que la nuit qui précède, la nuit, le lendemain, lui est en prison. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Il dormait. Il n'était pas trop stressé, ce gars-là. Hein? Il n'avait aucun stress, là. Parce que lui, la pensée de souffrir était là. Même si au prix de ma vie, je dois partir. I'm happy. Je suis content. Puis qu'est-ce qui est arrivé? L'ange, hein? Pierre, viens-t'en. Sors. La puissance de Dieu, là, quand on rentre dans sa volonté de faire les choses du Père, là, on va c'est, ça va être puissant. Ça va être, c'est l'arme la plus puissante qu'on peut avoir. C'est quasiment terminé. Ça va vite. Maintenant, on doit se poser des questions suivantes. Qu'est-ce qui est le plus important? Nos affaires personnelles ou l'œuvre de Christ? Le salut des âmes ou la sécurité pour nos vies? Protéger nos intérêts personnels, notre réputation ou le témoignage de Jésus sur la terre? On a de l'ouvrage en tabarouette à faire. Hein? Oui. Mais on n'a pas le choix. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous corrige, c'est lui qui nous dit les choses à venir. Le Saint-Esprit, on l'a besoin. On ne peut pas le mettre de côté, c'est impossible, on ne fera rien, tout va se faire par la chair, puis ça ne marchera pas notre affaire. Fait que, armons-nous de cette pensée. Fait que, si on est ensemble de cette pensée-là, quand le temps va venir, oh là là, ça va trembler. Amen. Que Dieu vous bénisse.